Bonjour à tous, c'est parti pour 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera, bien entendu, principalement aux États-Unis. À New York, QG des deux candidats. Hillary Clinton pensait l'emporter, ce fut Donald Trump. Washington, première rencontre à la Maison Blanche entre le président sortant et le président élu. Dans le Midwest industriel, on essaiera de comprendre eh bien, comment les ouvriers blancs ont choisi le républicain, précipitant la chute de la démocrate. Et puis la Floride également, normalement acquise à la cause d'Hillary Clinton. On essaiera de savoir eh bien, comment se sont déterminés les latinos. Voilà la présidentielle américaine qui va évidemment beaucoup nous occuper. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, l'élection présidentielle américaine, bien entendu, avec Dominique Simonet qui nous accompagne. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Dominique Simonet, journaliste, écrivain, co-auteur de First Ladies à la conquête de la Maison Blanche, co-auteur avec Nicole Bacharan. Avec nous également, le journaliste américain Eduardo Cué. Bonjour Eduardo.
Bonjour Fabrice.
Chroniqueur international, j'ai hâte de vous entendre, évidemment, puisque c'est le week-end, on est quelques jours après le scrutin. On a eu le temps un petit peu de digérer, de comprendre ce qui s'est passé donc eh bien depuis mardi soir, justement, ce scrutin commenté dans le monde entier. On va essayer de comprendre justement eh bien comment l'une a perdu et comment Donald Trump eh bien l'a emporté justement. Son premier discours, c'était dans la nuit de mardi à mercredi.
Now it's time.
C'est maintenant l'heure pour tous les Américains de dépasser leur division. Nous devons nous rassembler. À tous les républicains, tous les démocrates, à tous nos compatriotes, c'est le moment de ne former qu'une seule et même nation.
Voilà, discours rassembleur. Une fois n'est pas coutume, on verra ça évidemment dans un instant. Alors c'est vrai que jusqu'au jour du vote, hein, puisqu'entre autres le FBI avait décidé de ne pas la poursuivre, Hillary Clinton, eh bien les médias, les sondages, les marchés, l'establishment, diraient certains, étaient sûrs de sa victoire et peut-être l'intéressaient elle-même. Maintenant il a fallu se rendre à l'évidence.
Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country.
J'ai félicité Donald Trump. Je lui ai proposé de travailler avec lui. J'espère qu'il sera un bon président pour tous les Américains. Ce n'est pas le résultat que nous attendions. Je suis désolée que nous n'ayons pas gagné pour les valeurs et la vision que nous avons pour notre pays.
Hillary Clinton, déclaration quand même prononcée le lendemain soir, justement, le lendemain de sa défaite. Et puis celui qui s'était bien impliqué dans la campagne d'Hillary Clinton, Barack Obama, il promettait une transition aussi réussie que possible avec Donald Trump. Rencontre d'ailleurs jeudi après-midi dans le bureau ovale.
Quelles que soient nos orientations politiques et nos partis, il est important maintenant de se rassembler et de travailler ensemble afin de régler les challenges à venir.
Alors les marchés qui avaient largement tangué se sont repris, hein, s'envolant même et sur fond de manifestations plus ou moins violentes contre l'arrivée de Donald Trump. Alors il va falloir nous expliquer, hein, Dominique Simonet, Eduardo Cué, justement on a dit, entendu beaucoup de choses. Donc est-ce qu'on a compris, voilà, est-ce qu'on a compris pourquoi Hillary Clinton avait échoué et pourquoi Donald Trump a réussi donc à rassembler une majorité de grands électeurs? Tiens, Eduardo, démarrez s'il vous plaît.
Mais moi, je pense qu'en réfléchissant un peu, à, comme vous dites, à Fabrice, ça fait quelques jours maintenant depuis l'élection, on a eu le temps de reprendre nos esprits. Et quand on réfléchit un peu, il me semble que ces résultats est plus ou moins logique quelque part. C'est-à-dire, c'est vraiment, comme on a dit, le rejet des élites, mais de deux parties. Il faut pas oublier qu'au début de la des primaires, il y avait Jeb Bush, donc qui a été éliminé très très tôt, et donc les républicains. Quelque part, on dit on ne veut pas d'un troisième Bush à la Maison Blanche. Et puis par la suite, il y a les rejets du peuple américain dans son ensemble, même si Hillary Clinton a eu 200 000 voix de plus, de rejeter les Clinton finalement. C'est ça, c'est cette autre partie de l'établissement où les Américains et une grande partie des Américaines ont dit non, on ne veut pas de Hillary Clinton. Elle était une très mauvaise très mauvais choix, très mauvaise candidate, trop de casseroles, trop de problèmes qu'on a vu aussi tout au long de cette campagne. Donc finalement, c'est ça, c'est ce rejet des élites qui ont dit, il ne faut pas nous dire pour qui on doit voter, nous.
Voilà, comme quoi un scrutin n'est jamais acquis d'avance. 2006, Monnet, il y a eu vraiment davantage un vote anti-Clinton que pro-Trump.
Ah oui, ça c'est sûr. Totalement d'accord avec ce que vient de dire Eduardo. C'est vrai qu'il y a une, il y avait un rejet absolu de ce qu'elle représentait, de ce, à la fois quelqu'un qui était extrêmement compétent, mais dont la compétence était en fait un handicap, parce que ça voulait dire une longévité, même une obstination politique forte et insupportable pour beaucoup de gens. Bon, cela dit, il faut dire qu'elle a quand même gagné le vote populaire, en fait. Ce qui est, bon, toujours cette espèce de distorsion un peu curieuse aux États-Unis. C'est que
majoritaire en voix, mais minoritaire en grands électeurs.
Alors ce qui a joué, et on le voit bien avec le recul, ce qui a joué, c'est effectivement les États du Nord et qui ont basculé, qui étaient donnés plutôt gagnants dans le camp démocrate et qui ont
notamment ce fameux Midwest industriel dont on a parlé, cette région de Detroit, de Cleveland, de Pittsburgh. Donc
trois États, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, sont été les, ils étaient plutôt donnés démocrates, les sondeurs là se sont trompés. Cela dit, ça s'est joué à très peu de voix, à très très peu de voix. Mais avec le jeu des grands électeurs, ça fait
quand en sorte. Quand on a su mercredi matin tôt que le Wisconsin tombait dans l'escarcelle de Trump, c'était plié. Hein.
Voilà. Et donc, bon, ça reflète effectivement ce que les économistes, en tout cas les indicateurs économiques, ne percevaient pas avec autant d'acuité. Ça reflète le grand malaise d'un certain nombre de déclassés qui se trouvent dans un état de souffrance et de dénuement qui est réel.
Malgré la situation économique qui s'est amélioré quand même depuis 2009. Hein. Voilà, voilà, il y a un problème de ressenti.
Voilà, il y a une distorsion entre les sondages qui n'ont pas perçu la colère, les chiffres de prévision ne perçoivent pas la colère et l'irrationnel. Et de la même manière, les indicateurs économiques ne perçoivent pas ce désarroi profond. Vous parlez de la croissance. Les États-Unis sont effectivement en croissance. Le chômage est à moins de 5%. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, si vous comptez les travails partiels, les gens qui sont sortis un peu de la recherche d'emploi, le chômage monte à presque 10%. Et là, on sait qu'il y a une classe moyenne qui en fait a diminué depuis un certain nombre d'années. Elle a diminué. Des gens sont tombés de cette classe moyenne. Et ces gens-là, ces déclassés, ont effectivement montré leur rejet, leur désarroi du système. Et il y a une troisième chose quand même. Il y a l'économie, il y a le rejet des élites. Je pense qu'il y a aussi le discours de la haine à payer, parce que on avait un candidat qui était hors cadre. C'était pas on n'est pas dans le cadre d'une alternance classique républicain-démocrate. On a un candidat, je sais pas si on l'appelle populiste ou pas, peu importe, mais qui a quand même exalté les pires ressentiments, les vieilles.
Il était anti-tout, anti-système, anti-élite, anti-chinois. C'était le candidat anti quelque chose, hein.
Oui, et ce discours de la colère, ce discours de la haine qu'il a flatté, a séduit un certain nombre d'Américains, hélas, et qui ont cru que, en votant Trump, ils allaient résoudre leurs problèmes, mais
on verra.
En fait, ils ont donné leur vote à un marchand d'illusions, quand même.
Vous en avez couvert des campagnes, vous les avez vécues, évidemment, en tant qu'Américain, Eduardo Cué. Vous aviez déjà vu une campagne aussi violente, aussi clivante, hein, aussi agressive, justement, et qui a conduit les Américains, certains Américains en tout cas, à voter pour du protectionnisme, à voter pour de la xénophobie.
Non, il n'a jamais eu une campagne pareille, ça c'est clair, avec les insultes, avec tout ce qu'on a vu, faut dire, côté Trump. Mais c'était sa façon de s'imposer, hein, parce que personne n'aurait donné un sou pour lui au début de cette affaire. Et il s'est imposé de cette façon, mais il a touché à ce que vient d'être dit, à cette colère qui a complètement échappé les médias aussi, hein, qui ont été tout à fait à côté de la plaque aux États-Unis et ces fameux
médias qui étaient encore montrés du doigt. Donc au surlendemain de l'élection de Trump, quand il y a eu des manifestations plus ou moins violentes, hein, notamment à Portland dans l'Oregon, il a fait un tweet, Donald Trump, il a repris quelque part, voilà, chasser le naturel, il revient au galop, il a tensé les médias qui mettaient quelque part de l'huile sur le feu, hein.
Mais c'est clair que les médias, c'est-à-dire traditionnels, ont pris parti pour Donald Trump, pour Hillary Clinton, c'est absolument clair. J'étais en réunion mercredi matin, donc juste après l'élection, où les correspondants du New York Times ici à Paris a avoué que son journal avait pris parti pour Hillary Clinton, comme il n'avait jamais pris parti pour un candidat, même si c'est un journal démocrate. Je voulais, si je peux revenir deux petites secondes à l'histoire de Hillary Clinton, parce qu'on parle de la haine, c'est-à-dire on s'est peut-être pas rendu compte en Europe à quel point cette femme est détestée depuis très longtemps, pas, c'est pas nouveau, par une bonne partie de l'opinion américaine. Et qu'est-ce qu'on a vu campagne, on a vu l'histoire de Curiel, on a vu la mainmise du parti démocrate, on a vu le fait qu'elle a ses liens avec Wall Street, qu'elle est grassement payée pour donner des discours où elle dit une chose à Wall Street et dit le contraire en public.
Les milliards qui ont été, enfin les milliards, en tout cas plus d'un milliard de dollars engagés dans la pub, dans la campagne de Hillary Clinton, plus que d'ailleurs que Donald Trump.
Oui, absolument, beaucoup, beaucoup plus. Quelque part, c'est rafraîchissant, ça, de savoir que c'est pas l'argent qui est roi dans cette histoire. Il paraît que Donald Trump a dépensé plus d'argent pour fabriquer ces fameux casquettes-là qui disent « Make America Great Again » que sur la campagne des primaires. Et il faut aussi rappeler que Hillary Clinton avait eu une bataille acharnée avec Bernie Sanders pour la nomination, et que Bernie Sanders avait dit elle est qualifiée pour être présidente, mais elle n'a pas de jugement. Elle a fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Et donc, tout ça, finalement, je pense qu'une grande partie des Américains se sont dit, on peut pas avoir encore 4 années de Hillary Clinton.
Pardon, Dominique Simonet, vous qui écrivez régulièrement sur la vie politique américaine avec Nicole Bacharan, mais il n'y avait que pour postuler à la première place de la première puissance économique et militaire du monde. Quand même, le match Hillary Clinton, Donald Trump, on vous écoute tous les deux, on a l'impression que c'est vraiment des déchets, l'un et l'autre, quelque part. Enfin bon, ils étaient détestés. Et finalement, c'était eux qui se sont retrouvés dans le match final.
C'est bien le paradoxe, c'est qu'ils étaient tous les deux détestés, et ce n'étaient pas les meilleurs candidats pour leur propre parti. On a vu que les Républicains, par exemple, ne désavouaient une partie, en tout cas, des cadres républicains, n'ont pas voté Trump. Ils l'ont dit.
Dans les cadres démocrates, les partisans de Sanders, ils sont pas toujours venus voter pour Hillary Clinton.
Oui, donc on se trouvait dans une élection atypique à plus d'un titre. Et on avait là quelqu'un qui a une longue carrière politique très très expérimentée contre quelqu'un qui n'en a aucune. On avait une femme contre un machiste quand même, hein, il faut bien le dire. On avait une féministe plutôt contre quelqu'un qui a tenu des propos assez peu respectueux envers les femmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut dire que c'est vrai, d'une certaine manière, il faut aussi que les démocrates en fassent un peu leur l'analyse. On peut se poser la question comment les républicains ont enfanté ce candidat Trump, mais comment les démocrates ont aussi mis en avant Hillary Clinton. Il faut dire qu'elle est, c'est quelqu'un d'une très très grande ambition, qu'elle a effectivement verrouillé absolument tout le parti, et qu'elle avait même, ça on le sait, conclu un pacte avec Bill Clinton. Bill lui a dit en sortant de la Maison Blanche, tu m'as donné les 20 prochaines. Donc il y avait un projet comme ça d'une ambition personnelle inouïe et qui a effectivement...
Et c'est la fin de la dynastie Clinton, à moins qu'un jour Chelsea reprenne la suite, non ?
Oui, Chelsea va être très embêté de s'appeler Clinton.
Oui, c'est pas l'autre. Ouais. Eduardo Cué.
Non, mais je voulais dire que du côté du Parti républicain, il faut pas oublier, il y avait 16 candidats qui se sont présentés aux primaires, 16. Du côté du Parti démocrate, exactement ça. Hillary Clinton, la famille Clinton a verrouillé. Et on a vu pendant cette campagne, qui n'a pas aidé non plus à l'écart de Hillary Clinton, que les instances du Parti démocrate qui doivent rester neutres ne l'étaient pas. On a vu aussi quelqu'un qui a travaillé pour le parti, pour les démocrates, passer des questions à l'avance à Hillary Clinton avant les débats. Donc toute une série de choses qui ont fait que beaucoup d'Américains républicains, je pense, se sont dit, on peut vraiment pas voter pour Hillary Clinton.
Et on
normalement, elle aurait dû gagner contre elle.
Avec des électeurs qui... Allez-y, Dominique,
s'il vous plaît. On peut se dire que n'importe quel autre candidat un peu sérieux, enfin, pas démocrate, l'aurait emporté face à Donald Trump.
Michelle Obama, elle aurait pu y aller? À part faire le match.
C'est un peu tôt, parce qu'elle est restée quand même dans son rôle de First Lady, ouais. Même si à la fin, elle s'est engagée sur le plan politique.
Alors qu'Hillary Clinton a toujours eu une carrière politique.
Elle a une notoriété extraordinaire. Cela dit, il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est qu'en même temps, Hillary Clinton, c'est une femme. Il y avait quand même aussi, alors je sais que c'est toujours, on n'ose pas trop le dire, mais il y avait quand même toujours aussi un peu une réticence, malgré tout, l'électorat à voter pour une femme. Quand on regarde la notoriété d'Hillary Clinton, on se rend compte que pendant toute sa carrière, à chaque fois qu'elle montre une ambition qui est en fait une ambition traditionnellement masculine, par exemple quand elle fait la réforme de la santé sous Bill Clinton ou quand elle commence sa campagne de sénatrice à New York, sa notoriété chute. À chaque fois qu'elle revient dans un rôle traditionnel, c'est-à-dire qu'elle défend Bill Clinton pendant l'affaire Lewinsky ou qu'elle joue son rôle de secrétaire d'État sous la tutelle de Barack Obama, là au contraire, elle est populaire. Comme si d'une certaine manière à chaque fois qu'une femme essayait de grignoter un petit peu du territoire du pouvoir d'un homme, ça ne marchait pas. Donc il y a aussi cette dimension-là. Cela dit, il faut tempérer parce qu'on a vu que les femmes n'ont pas été très enthousiastes pour aller voter pour elles.
Donc. Tout juste, oui. Alors oui, qu'est-ce qui a manqué encore à Hillary Clinton ? On a parlé tout à l'heure du vote des ouvriers blancs dans ce Midwest industriel où quand même depuis 2000, les États-Unis, ils ont quand même perdu 5 millions d'emplois dans l'industrie manufacturière. La Floride, je le disais tout à l'heure, normalement acquise quand même à la cause d'Hillary Clinton. Ah non, pas complètement. Allez-y, Edouard Ocul.
Non, la Floride, c'est un swing state, ça. C'était pas la Floride a beaucoup changé, hein, elle est beaucoup plus jeune, il y avait une communauté cubaine qui avait quand même une influence assez importante, c'est plus le cas aujourd'hui. L'état des retraités, c'est plus tellement le cas, donc mais ça continue à être véritablement les swing states par définition, donc c'était jamais acquis à Hillary Clinton. Moi, si je peux revenir deux petites secondes, qu'est-ce qui a manqué à Hillary Clinton? Bon, d'abord les femmes. La majorité des femmes blanches, il y a plus de femmes blanches qui ont voté Trump que Clinton. C'est extraordinaire, mais c'est la vérité. C'est ça qui s'est passé. Les Noirs ont voté dans la grande majorité Clinton, mais ils se sont peu déplacés. En grande partie, peut-être parce qu'ils sont un peu dessus d'Obama. Obama, il faut dire que tout au long de ces 8 années, il n'a pas voulu être le président des Noirs. Donc, il est resté un peu en retrait. Il a voulu, à juste titre, il me semble, être le président de tous les Américains. Mais je pense que surtout avec les incidents raciaux qu'on a vu depuis un an et demi aux États-Unis, tous ces Noirs qui ont été tués par des policiers blancs, aucun qui se trouve en prison. Les Noirs ont été dessous et ils ne sont pas mobilisés comme ils auraient pu se mobiliser. Et finalement, les jeunes. Les jeunes ne sont pas Bernie Sanders, qui ont soutenu Bernie Sanders, ne se sont pas mobilisés massivement non plus.
Ni les Hispaniques, d'ailleurs.
Ni les Hispaniques. Et là aussi, encore une fois, Trump a eu plus de voix hispaniques, 29%. Que Romney en 2012, le candidat républicain, 27%, c'est extraordinaire.
Malgré ce discours de Trump sur les immigrés, sur le Mexique, construire un mur.
On verra d'ailleurs dans un instant.
On va renvoyer 11 millions d'immigrés,
bien sûr.
C'est vrai que là, il y avait quelques
doutes.
Chances de dire, les hispaniques, vont aller voter en masse pour Clinton.
Tiens, vous avez remarqué là un peu l'ironie quand même, puisque vous parlez des Noirs, le buste de Martin Luther King qui était posé sur un petit guéridon derrière Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche.
J'ai remarqué autre chose hier, c'est qu'il y avait des plans de caméra qui étaient absolument incroyables. C'est une image surréaliste.
Allez-y, Dominique.
Vous aviez effectivement Barack Obama sur son fauteuil, Trump à côté et derrière. Alors, j'ai pas vu le buste.
On le voit.
Mais on voit. Alors il y a un autre plan où on voit Abraham Lincoln derrière.
Ah oui.
Il y a les trois têtes comme ça avec le portrait sur le mur le fameux portrait d'Abraham Lincoln qui se trouve dans le bureau ovale.
Oui.
Donc on était dans les symboles.
Beaucoup de symboles. Juste encore une fois, parce que je voudrais qu'on revienne aussi sur ce vote anti-élite. On a vu comment Hillary Clinton avait quand même mobilisé le gratin des stars internationales, les Jennifer Lopez, les Katy Perry, les Beyoncé, les Jay-Z, les Bruce Springsteen, alors ce qui a pu peut-être un peu, comment dire, choquer, non, les électeurs de...
Ah, choquer les électeurs de Trump, absolument.
Ouais, c'est ça, un petit peu snobé parallèlement. On voit également qu'après le Brexit, la victoire de Trump, quelque part, c'est un, peut-être un nouveau signal de ce mouvement anti-mondialisation qui sert les partis populistes, comme on le voit d'ailleurs en Europe, en Espagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en France également. Le populisme, tiens, justement... c'est un courant ancien aux États-Unis, Dominique Simonet. Je voyais dans le Point, cette interview, le Point de cette semaine, cette interview d'un enseignant de Princeton, Jean Werner Müller, qui fait remonter ce courant à 1891. À une époque, il y avait un mouvement pour aider des petits producteurs contre Wall Street, contre les chemins de fer, contre les banques. Ce populisme Trump, finalement, il n'y a rien de nouveau finalement aux États-Unis.
C'est vrai qu'il y a toujours une, il y a toujours une tentation, même une volonté très très forte d'une part des partie des Américains de d'être entre leurs deux océans à la fois sur le plan international et aussi sur le plan économique pour défendre l'Amérique avant tout. Il y a deux courants qui sont ressortis un petit peu, celui qu'on appelle le nativisme un petit peu et même le constitutionnalisme.
C'est
des gens qui veulent prendre la Constitution à la lettre, par exemple, qui vous disent que, mais dans la Constitution, il est totalement écrit que le port d'armes est absolument donné à tous, ouais. Et que voilà, c'est un peu une lecture très. Et il y a aussi ensuite une nostalgie d'une Amérique, celle d'avant, l'Amérique qui était effectivement blanche. Il faut bien reconnaître aussi, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas accepté l'Amérique d'Obama. De voir une famille noire à la Maison Blanche, ça n'a pas été du goût de tout le monde et que d'une certaine manière, c'est un peu la revanche de 2008. Et cette Amérique-là, elle a toujours été là. Elle est là. Elle s'est exprimée cette fois-ci avec une hargne et une colère par la voix de Donald Trump. Et elle existe. Et bon, mais cela dit, il y a aussi l'autre Amérique qui existe. Juste un mot, l'autre Amérique, c'est celle qui donne 200 000 voix de plus à Donald Trump, qui est l'Amérique des milléniums, c'est l'Amérique jeune, qui est l'Amérique qui est pas forcément non plus très très contente de l'élite de Washington, mais en tout cas qui est elle volontaire à la fois un pied dans la réalité de la mondialisation et du marché et l'autre pied dans les valeurs américaines et les valeurs civiques.
Et alors, comment ces deux Amériques vont se reparler, se retrouver, donc, après l'élection de Trump, Eduardo Cué? Un mot, puis on continuera dans un instant.
À mon avis, ça sera très, très difficile, hein, parce qu'on avait dit ça il y a 8 ans, lors de la première élection d'Obama, on avait dit que les problème racial des États-Unis était résolu. Hein, voilà un président noir, etc. Et on a vu que au lieu de ça, ils se sont empirés. J'ai vu un dessin animé, un dessin dans un journal mexicain, il se trouve, où il y a Donald Trump devant la Maison Blanche qui est en train d'appeler la police et dire « Il y a deux noirs qui habitent ma maison.
» Ouais, tout est dit. Voilà, 7 jours dans le monde. On va retrouver Eduardo Cué, donc journaliste américain, chroniqueur international. Et puis Dominique Simonet qui vous propose, tiens, profiter de ce week-end, donc du 11 novembre, First Ladies à la conquête de la Maison Blanche. On verra justement si Trump appliquera ce qu'il avait promis durant la campagne. On revient vite sur BFM Business, à tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde où on parle principalement évidemment de l'événement mondial de la semaine, hein, l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis face à Hillary Clinton. On continue à en parler avec deux personnalités de talent, le journaliste américain Eduardo Cué, Dominique Simonet, auteur, co-auteur de First Ladies à la conquête de la Maison Blanche. Tiens, justement, actuellement à la Maison Blanche jusqu'au 20 janvier, on aura l'occasion évidemment de reparler de son bilan au moment de la passation de pouvoir, la vraie passation de pouvoir, pas uniquement cette discussion dans le bureau ovale ce jeudi après-midi. Barack Obama, on fera un bilan à son crédit, à son débit, mais il rate sa sortie ou pas ?
C'est pas très agréable pour lui, hein, parce que malgré tout, Hillary Clinton, même si c'était pas la candidate idéale pour les démocrates, c'était la candidate qui devait assurer la continuité, notamment pour ses réformes importantes comme celle de la santé. Là, Donald Trump a promis de la défaire, cette réforme de la santé. Donc pour Barack Obama, évidemment, c'est un échec.
Il a sa part de responsabilité dans alors la victoire de Trump ou la défaite de Clinton, Eduardo Cué.
Je ne sais pas si on peut dire qu'Obama a sa part de responsabilité. Je dirais, comme je l'ai déjà dit, que le Parti démocrate a sa part de responsabilité en nommant Hillary Clinton. Mais c'est sûr que c'est terrible pour Obama. C'est terrible parce que c'est pas seulement l'assurance maladie, c'est aussi le climat, les changements climatiques. C'est aussi la Cour suprême qui.
Il reste encore un juge à nommer. Il veut avoir une Cour suprême qui soit la plus rigoriste possible, anti-avortement, anti-minorité, anti-gay, enfin voilà, bon, voilà. Je simplifie.
Donc mais... il veut démonter, démonter pièce par pièce tout ce que Obama a fait pendant 8 ans. Donc s'il réussit à faire ça, la présidence Obama, il restera très très peu. Donc il doit être quand même très très embêté, monsieur Obama.
Alors... Maintenant, n'accusons pas forcément, ne faisons pas de procès d'intention, donc a priori à Donald Trump. Hein. Il prendra donc effectivement son pouvoir le 20 janvier lorsqu'il sera dans son bureau ovale. Est-ce qu'il sera un bon président? Ça sera quoi ses premières décisions? On a entendu beaucoup de choses durant la campagne, en effet, que vous avez rappelé. On aurait pu parler aussi de toutes les mesures anti-immigration, il veut défaire les traités internationaux, il veut bombarder massivement Raqqa, etc. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Dominique Simonet.
La question, c'est celle que vous posez, Fabrice, c'est effectivement... Qu'est-ce qu'il va faire? Mais en fait, personne ne le sait. Personne ne le sait, parce que là, on voit même au fil des heures qu'un certain nombre de ces mesures disparaissent de son site.
De son site.
Comme par exemple le climat, qui est pas rien, l'accord de Paris.
Il veut revenir sur l'accord de Paris, la COP 21 de décembre dernier.
Dénoncer, qui est quand même une chose très très importante. C'est assez compliqué d'ailleurs de le dénoncer. Je pense que c'est l'article 29 qui prévoit qu'un pays peut sortir, mais au bout de 3 ans seulement. Voilà. Et après, il y a 1 an de délai. Donc en fait, si prend la décision de sortir, c'est pas immédiat. Mais cela dit, cette mesure a disparu de son site. Donc on se dit, tiens, peut-être qu'il y renonce. Donc c'est très compliqué de savoir s'il va appliquer toutes ces mesures. Est-ce qu'il va chasser 11 millions de clandestins comme il l'a dit?
Au détriment qu'on ait un manque de main d'œuvre, tout d'un coup une baisse de la consommation. Eduardo Cué.
Non, pour répondre à la question, moi je pense que les premiers jours, le 21 janvier, il fera un coup. Je ne sais pas lequel, avec un décret d'Obama pour éliminer un décret symbolique d'Obama, peut-être par rapport à l'immigration, parce que comme le Congrès n'a pas voulu réformer le système d'immigration, Obama a pris quelques décrets présidentiels. Donc il va sans doute éliminer quelques décrets présidentiels, et puis par la suite il y aura la réalité qui va s'imposer. C'est évident, il ne peut pas tout simplement pas
chasser
11 millions de hispaniques. Il ne peut pas fermer les frontières aux musulmans, c'est pas possible. Donc je suis bien d'accord avec Dominique, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il va faire, et peut-être que lui non plus d'ailleurs.
Le Congrès républicain, donc à sa couleur, malgré tout, va quand même un petit peu le canaliser ou pas?
Alors, il va devoir effectivement faire face à la réalité, c'est-à-dire que là, d'ailleurs, il a commencé depuis hier. Les dossiers vont lui arriver. Il va être initié à un certain nombre de secrets défense, de problèmes de la sécurité, de dossiers économiques, de dossiers diplomatiques, et que là, très très vite, la réalité arrive et il va vite se rendre compte qu'il ne peut pas tout faire. Cela dit,
va s'amender un peu.
Je suppose qu'en tout cas, il va devoir négocier aussi avec les élus du Congrès, avec les républicains modérés qui n'ont pas soutenu, ce qui va pas être si facile que ça.
Attention, hein, bah, j'entends beaucoup à dire que le Congrès républicain va les modérer. Sauf modérés, les congrès...
Oui, c'est vrai.
Les Paul Ryan de ce monde sont des ultra-radicales. Les congrès républicains ont tout bloqué depuis 200 dernières deux années de la présidence Obama, et dire maintenant que ce sont les mêmes qui vont modérer Donald Trump, je n'y crois pas beaucoup.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Je voulais dire que en fait, il va devoir faire face aux réalités. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, après, ça dépend aussi comment il compose son cabinet. Mais il y a un certain nombre d'échanges de jeux avec son parti, et évidemment, les républicains, les élus républicains vont entrer dans le rang et aller derrière lui. Mais je voulais juste rajouter une chose que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est la Cour suprême.
Oui.
Parce que le Congrès, vous savez que c'est le président qui nomme le juge à la Cour suprême, mais le juge doit être avalisé ou refusé par le Congrès. Et là, ce qui s'est passé depuis des mois, c'est que le Congrès donc et les républicains ont refusé d'auditionner simplement le juge. Ils n'ont même pas voulu. Donc ça a été un blocage systématique en espérant une hypothétique victoire de Trump qui vient de se réaliser. Et là, donc, ce qui va se passer, c'est que Trump va évidemment nommer un juge conservateur. Il y aura une majorité donc conservatrice à la Cour suprême. Ça veut dire que l'avortement, Obamacare, le mariage gay, etc., toutes ces mesures,
mesures
sociales, de société, risquent d'être défaites ou d'avoir de sérieuses contestations.
Je suis bien d'accord, mais dans tous ces cas-là, ça ne serait pas tout de suite.
Hein, non, pas tout de suite.
Il faut des années pour qu'un cas arrive à la Cour suprême. Donc, si on s'attend que l'avortement soit
contesté dans un État, il faut que ça remonte, évidemment.
La peine de mort, etc., ça sera d'ici quelques années.
Juste un mot, Eduardo Cuet, je rebondis sur ce que disait Dominique Simonet. Avec qui va gouverner Donald Trump? On va trouver qui dans ses ministres, dans ses secrétaires d'État, secrétaires à l'intérieur?
Il y a des noms. Ouais. Un nom qui revient avec beaucoup d'insistance, il y en a beaucoup, c'est Newt Gingrich, l'ancien président de la Chambre.
Des représentants,
qui a été une farouche opposante de Clinton pendant la présidence Clinton, qui est un homme très dogmatique.
Obama. Bill Clinton.
Et puis, à lui, on parle de lui comme un secrétaire d'État, c'est-à-dire le premier diplomate des États-Unis. Il y a le général Michael Flynn, donc,
à la défense,
peut-être. Le sénateur Jeff Sessions, républicain d'Alabama, qui a soutenu Trump depuis le début, depuis le premier jour. On parle de lui aussi, pour la défense, peut-être.
On aura l'occasion de les découvrir tous.
Et puis, il y a Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York.
Oui.
On parle de ministre de la Justice, alors qui est quand même... c'est un dur parmi les durs. C'est celui qui a nettoyé, entre guillemets, New York. On parle de lui pour la justice. Donc, et même, je ne sais pas si vous vous souvenez, Ben Carson, qui était candidat à la primaire, on parle de lui pour l'éducation ou la santé.
Voilà, et puis le nom qui circulait aussi, Jimmy Dimon, ancien patron de JP Morgan, comme secrétaire au Trésor. Je vois qu'on avance, parce qu'il y a les relations quand même avec les partenaires des États-Unis. Cette victoire de Donald Trump, donc, qui a pu désarçonner certains. Tiens, regardons ce qui s'est passé vraiment concrètement en France. Je pense à François Hollande, qui apparemment voyait déjà Hillary Clinton à la Maison-Blanche avant même que le scrutin ait démarré. Réaction tardive du président français 6 heures après l'annonce de la victoire de Donald Trump. On a entendu Hollande se forcer un peu à le féliciter. Une période d'incertitude s'ouvre. L'après-midi, il lui a écrit pour travailler avec lui. Ils se sont appelés ensuite. L'Union européenne doit être lucide et déterminée face à Trump. Voilà ce que disait donc jeudi après-midi François Hollande en présence du Premier ministre danois.
L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis oblige les Européens à être clairs et lucides et capables de relever les défis qui les concernent. Nous aurons à définir avec la nouvelle présidence américaine les relations entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est l'état d'esprit qui est commun à l'ensemble des pays membres.
Voilà, une Europe claire, lucide, déterminée face à Trump. Oui, une Europe affaiblie par le Brexit, divisée sur un certain nombre de sujets, qui ne passent pas toujours grand-chose finalement, de moins en moins, cette Europe. Comment elle va se déterminer? Comment ils vont travailler Europe et Américains, donc, à partir du mois de janvier. Dominique Simonet.
C'est vrai qu'il y a des propos des chefs d'État, on l'a vu aussi dans la bouche d'Angela Merkel, des propos d'essayer de redonner un petit peu l'esprit civique international après une campagne qui, effectivement, en a manqué. Donc, il y a sans doute, évidemment, une certaine inquiétude, puisque la politique étrangère de Trump, telle qu'il l'a annoncée, est assez inquiétante pour la stabilité du monde et pour l'Europe.
Mais est-ce qu'il va dénoncer tous les traités internationaux, les traités de libre-échange? On parlait du traité de Paris tout à l'heure sur la COP21.
Comme le disait Eduardo, est-ce qu'il va... la chose étonnante avec Trump, c'est qu'on se dit, après tout... pourvu qu'il ne tienne pas ses promesses. Ouais. C'est quand même incroyable. On est dans une inversion totale d'un jeu démocratique habituel.
Eduardo Cuer, regardons un petit peu sur la scène diplomatique ce qui peut se passer, parce que évidemment on a eu beaucoup de réactions de surprise, de dégoût parfois, réactions probablement excessives bien sûr, en attendant évidemment qu'il fasse ses preuves. Donald Trump, parmi ceux qui étaient les moins critiques et peut-être le plus favorable, c'est Vladimir Poutine qui l'a félicité, qui a dit espérer une amélioration des relations russo-américaines. Ils vont travailler sur un pied d'égalité. Pourquoi faire l'un et l'autre, Russie et Amérique, Poutine et Trump?
Mais moi, j'ai l'impression que Poutine se trompe sur Donald Trump. Je pense que Donald Trump, s'il voit un Poutine très agressif, un Poutine qui dit « maintenant c'est ma chance » avec cette espèce de clown à la Maison-Blanche, il se trompe lourdement. Je pense que Trump, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais c'est un homme pragmatique et il va pas se laisser doubler par Poutine. Il pourrait être encore plus dur vis-à-vis Poutine qu'Obama. Ceci dit, c'est pas très difficile de faire. Donc moi, avec la Russie, on verra bien. Si on peut revenir sur l'Europe de petites secondes, c'est une chance peut-être pour l'Europe. Une chance d'unité pour l'Europe, l'élection de Trump.
Ouais, on verra. Pourquoi?
Parce que au niveau de la défense européenne, par exemple, ça pourrait pousser les États européens à se réunir un peu plus sur la défense européenne, étant donné ce qu'il a dit sur l'OTAN.
Oui, le président chinois Xi Jinping se dit impatient de travailler avec Trump. Ça veut dire que Japon et Sud-Coréen ont des raisons de s'inquiéter ou pas?
Oui, je pense que tout le monde a des raisons de s'inquiéter. Si on voit un retrait de la part de Trump, comme il l'a promis.
Encore une fois, on est partagé entre la virulence des propositions de campagne du candidat Trump et puis le possible retour à un réalisme du président Trump. Si on écoute Walid Fares, par exemple, qui est son conseiller diplomatique, il a un discours assez modéré, là, depuis quelques heures. Avec la Russie, on verra, malgré tout, bon, il n'est pas question de renoncer à cette espèce d'enthousiasme trumpien pour Poutine, parce que moi, je ne sais pas quel...
qu'il avait pesé dans la campagne.
Voilà, mais bon, il a quand même beaucoup de sympathie pour cet homme qui est un homme fort et ça lui plaît beaucoup. Mais l'Iran, par exemple, l'accord avec l'Iran.
Ah, justement. Il y revient ou pas, l'accord sur le nucléaire?
Walid Fares a l'air de dire que oui, il faut négocier le traité, que le traité doit être.
Qu'est-ce que ça va changer aussi sur les autres dossiers chauds, le Proche, le Moyen-Orient, les relations avec l'Arabie Saoudite, Eduardo Cuer?
Le Moyen-Orient, il a dit clairement qu'il allait déménager l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem.
Ouais.
Une loi qui a été
votée par Netanyahou a applaudi largement Trump comme ami d'Israël. Voilà.
Absolument. Il faut rappeler que c'est une loi que le Congrès a approuvée en 1995, je pense, le déménagement de l'ambassade. C'est
l'ambassade de France aussi est à Tel Aviv, bien sûr, pour ne pas reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État israélien.
Exactement. Donc, est-ce qu'il pourra faire ça là, peut-être. Et ça va exacerber les problèmes du Moyen-Orient.
Et encore, un mot encore là-dessus, très court. Vous êtes d'origine mexicaine, Eduardo Cuer. Le Mexique, quelles conséquences, justement, migratoires, économiques?
Bon, j'ai passé pas mal de temps au Mexique cet été et je peux vous dire que Trump n'était pas très bien aimé.
Ah bon?
On verra bien. Le président mexicain Peña Nieto a dit hier qu'il voulait rencontrer Trump encore une fois dès que possible. Je pense que les Mexicains s'attendent au pire. Sans doute la relation va changer, surtout avec les traités de libre-échange avec le Mexique et le Canada. On verra.
7 jours dans le monde. On va se retrouver dans un instant avec Eduardo Cuer, avec Dominique Simonet, justement, le Proche-Orient. On y revient, bien sûr, avec ce double assaut sur Mossoul et Raqqa contre l'État islamique. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Pour Actu International, évidemment, focalisé quasi intégralement dans 7 jours dans le monde sur l'élection de Donald Trump. Et on en a parlé tout naturellement, bien sûr, avec deux spécialistes. Dominique Simonet, auteur de co-auteur des First Ladies à la conquête de la Maison Blanche. Et puis le journaliste américain Eduardo Cué, chroniqueur international. Et puis on l'évoquait il y a quelques instants, les implications de l'élection de Donald Trump sur les dossiers chauds du moment et notamment la guerre contre l'État islamique. En attendant, eh bien, vous le savez, l'offensive, elle se poursuit tous azimuts contre Daesh, double front, hein. Après l'entrée donc dans Mossoul, en Irak, des forces spéciales irakiennes, on en avait largement parlé ces deux dernières semaines, cap cette fois sur Raqqa, on est au nord de la Syrie, c'est l'autre capitale de l'État islamique, hein, capitale toujours entre guillemets, bien sûr capitale politique, cette fois Mossoul étant plus vocation économique, enfin bon, si on peut dire ça comme ça, avec cette opération Colère de l'Euphrate, menée par les forces démocratiques syriennes, les FDS, 30 000 combattants, en majorité des Kurdes et des Arabes.
Dieu merci, nous sommes positionnés sur trois points stratégiques, le nord, le sud et l'ouest de la ville. Le moral des troupes est bon. Nous travaillons avec la coalition et beaucoup de factions participent à cette offensive. Dieu merci, nous sommes nombreux. Le moral est bon.
Voilà, donc ce combattant des FDS, alliance anti-Daesh, Eduardo Cué, soutenu par les Américains. Donc, une alliance un petit peu hétéroclite hein, quand même. Hein.
Oui, une alliance hétéroclite, comme ça a été toujours le cas avec la Syrie. Il y a les Kurdes qui prennent les devants, si j'ose dire, qui veulent aller vite fait vers Raqqa. Les Turcs veulent surtout pas laisser ça, parce que les Turcs font tout pour empêcher que les Kurdes, après ces conflits, puissent dire nous, on mérite un État indépendant. Donc ça c'est ça qui est en jeu. Pour l'instant, comme c'était prévu d'ailleurs, la reprise de Mossoul s'avère très très difficile.
On va y revenir sur Mossoul, mais simplement c'est intéressant ce que vous venez de dire justement, si les Kurdes semblent avancer vite, hein, pour reprendre Raqqa, là on parle toujours de cette ville du nord de la Syrie, ville isolée donc, après la isolée, c'est donc Mandaesh, mais il y a eu ces dernières semaines Manbij, Dabiq également qui ont été repris par les opposants à Daesh. Si les Kurdes avancent vite, c'est évidemment pour prendre de l'avance sur les Turcs, qui eux aimeraient bien intervenir, mais qui pour l'instant, eh bien, ne se sont pas encore lancés dans la bataille. Hein.
Mais oui, c'est ça, ils se sont pas encore lancés dans la bataille, mais quand les Turcs sont entrés cet été en Syrie, c'était en grande partie pour empêcher les Kurdes d'établir un territoire contigu entre le nord-ouest et le nord-est de la Syrie. Il me semble que les vrais ennemis pour Ankara, ce sont les Kurdes et pas beaucoup plus que l'État islamique quelque part. Hein. Ils veulent à tout prix éviter que les Kurdes puissent dire, écoutez, on s'est battu, maintenant on a besoin d'un État indépendant kurde entre l'Irak et...
C'est leur bête noire, hein, les Kurdes de Turquie, les Kurdes du nord de la Syrie, dans une moindre mesure les Kurdes irakiens. Juste une parenthèse, ça justifie à vos yeux toute cette politique un peu de purge menée par le président Erdogan, ou c'est un prétexte?
Moi, je pense que c'est un prétexte. Mmh. Ça ne justifie pas du tout cette politique. Mais bon, maintenant, on a un peu l'habitude avec lui, hein, depuis ce qu'il a fait depuis les coups d'État manqués. C'est la même chose que j'aurais voulu dire aussi à ce qui concerne cette situation, c'est que peut-être que dans les 70 jours, plus ou moins, qui restent à Obama, il va vouloir sortir de la Maison Blanche avec une victoire militaire sur l'État islamique. Et peut-être qu'il va s'impliquer un peu plus militairement qu'il ne l'est fait jusqu'à maintenant, même si les États-Unis sont quand même assez pressants sur cette bataille de Mossoul, surtout avec des bombardements avec les Anglais et les Français.
Ouais, Dominique Simonet.
C'est possible, mais c'est compliqué pour lui hein, quand même, parce que c'est très, très risqué. Jusqu'à présent, il a fait preuve, c'est moins qu'on puisse dire, d'une extrême prudence vis-à-vis de ça. Souvenez-vous de la fameuse ligne rouge à ne pas dépasser.
Ou 2013.
Et c'est vrai qu'en plus, là, il fait preuve aussi d'une grande prudence vis-à-vis des Russes. Il y a deux agendas politiques qui ne sont pas vraiment les mêmes. Les Russes ne bombardent pas trop l'État islamique. Hein. Ils ont plutôt d'autres.
Dans la bataille de Raqqa, ils semblent pour l'instant en retrait. Hein.
Absolument. Et effectivement, le jeu de la Turquie avec les Kurdes aussi, qui sont en première ligne, c'est encore une autre donnée politique. Donc là, on se trouve dans une situation de un peu de blocage. Que va faire Donald Trump face à ça? Jusqu'à présent, là aussi, son conseiller diplomatique a dit que laisse entendre que le régime de Bachar el-Assad, on n'y touche pas parce que ce sera un allié.
Dans son programme, c'était bombarder massivement l'organisation État islamique en Syrie. Voilà ce qu'il avait promis Donald Trump.
Il y a des oubliés de l'histoire, là. C'est les populations civiles qui font les frais de cet abominable jeu d'alliance.
Et comme on le voit, comme à Mossoul, la bataille de Raqqa ne sera pas facile, hein, évidemment, puisque l'État islamique va vendre chèrement sa peau, bien entendu, et ça a déjà commencé avec des attentats kamikazes, des snipers. C'est vrai que Raqqa qui tomberait, c'est la fin de Daesh en Syrie. Hein. C'est le centre logistique, le centre politique de l'État islamique, de l'organisation terroriste, Edouard Ocuet.
Oui, mais il faut dire que les autorités militaires américaines ont dit que l'armée, ce serait une armée arabe, n'est pas du tout prête pour l'attaque de Raqqa. Hein. C'est pas pour demain matin. À mon avis, Obama sera parti de la Maison Blanche. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il va falloir reprendre et Mossoul et Raqqa si on veut éliminer l'État islamique.
Et on voit, en effet, c'est cette course. Hein, qui arrivera le premier? Qui contrôlera le premier? Qui influence qui posera en premier sa zone d'influence. Mossoul, quatrième semaine de l'offensive pour reprendre la ville. Hein. On a vu les forces spéciales irakiennes qui sont entrées il y a 10 jours par l'est, et cette semaine prise d'une ville importante dans le sud, cette fois de Mossoul. Hein. On voit la pression qui s'accentue, et là aussi Daesh qui résiste par tous les moyens. Un dernier mot, puis on va se dire au revoir.
Ils résistent par tous les moyens. Il y en a beaucoup qui sont cachés dans les tunnels, qui ressortent d'un coup. Il y a
ces voitures piégées qui sont lancées à grande vitesse contre
les assaillants. Ils n'ont pas les forces de l'État islamique, n'ont pas quitté la région. Ils restent là, ils se battent. Et c'est très, très difficile sur le terrain.
Dominique Simonet, le mot de la fin, justement, pour conclure cette heure internationale consacrée aux États-Unis principalement.
C'est-à-dire on rentre dans une ère d'incertitude, effectivement, qui est avec toutes les questions qu'on s'est posées. Et vous voyez, il est très difficile de savoir quelles vont être les véritables intentions de Donald Trump, aussi bien en politique économique qu'en politique étrangère. Ça laisse aussi des réflexions sur ce qui peut se passer en Europe, ce qui peut se passer en France, sur la difficulté à comprendre effectivement le fossé économique, la fracture sociale et une certaine colère des gens qui sont tiraillés entre leurs racines et la mondialisation, et qu'on n'a pas encore trouvé une solution idéale, mais on a besoin à la fois d'une défense européenne et d'une politique aussi. On a besoin d'une Europe, en tout cas. C'est vraiment une des conclusions.
Merci Dominique Simonet, co-auteur des First Ladies à la conquête de la Maison Blanche. Merci Edouard Ocuet également avec nous, donc chroniqueur international, journaliste américain. C'est fini pour 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la radio et à la télé. Rendez-vous la semaine prochaine.
BFM Business, 7 jours dans le monde.